Il y a des clins d'œil. J'ai entendu une prière tout à l'heure, plus cette parole qui est apportée par Jean-Louis. Et Dieu fait souvent des clins d'œil en nous encourageant et nous disant, ben voilà, tu vois, ce que tu as préparé, ce n'est pas le fruit du hasard. Dimanche, j'avais sollicité Laurent pour qu'il apporte la prédication parce que une communauté de Paris m'avait demandé de prêcher l'après-midi. Et je m'étais dit, prêcher deux fois dans la journée, c'est pas forcément, on n'est pas tout aussi frais quand on le fait la deuxième fois, on est un peu fatigué, donc je voulais être disponible. Et puis, j'ai, si vous vous souvenez, ouvert le culte, puisque j'étais à la louange, ouvert le culte avec un passage de l'Épître aux Philippiens, chapitre 3. Et quand je me suis installé devant mon ordinateur pour ouvrir Zoom et démarrer le culte avec l'église de Paris, le pasteur de l'église de Paris qui m'avait invité à prêcher, a commencé le culte par le même verset dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 3 avec le même commentaire. Je dis, bon, ben voilà. Quand Dieu conduit les choses, c'est toujours, je dirais, pour nous faire du bien, pour nous encourager, pour nous emmener plus loin. Alors ce matin, j'ai envie de dire, soyons tous dans une attitude de foi. Alors c'est quoi la foi? C'est le même mot que la confiance ou la fidélité. J'ai envie de dire que nous soyons tous, moi y compris, dans une attitude de foi pour recevoir une parole et de se dire, mais voilà, je vais m'ouvrir et être disponible pour que cette parole me rencontre, là, maintenant et ce matin. Après, j'en repartirai, je suis libre de me l'approprier, de dire, il y a quelque chose pour moi, ou bien de la laisser un peu de côté. Mais je crois que Dieu a vraiment quelque chose. J'ai entendu une prière tout à l'heure qui m'a fait dire, ah, pourvu qu'elle s'arrête, sinon elle va faire toute ma prédication dans sa prière. Donc voilà, j'ai envie ce matin de parler d'un homme, mais aussi d'une rencontre. Et si j'avais un titre à donner, et ça je le dis haut et fort pour que Patricia le note, puisque c'est enregistré sur notre site ensuite au niveau des prédications, en écoutant les prières ce matin, cette parole qui a été apportée, j'ai envie de dire que le titre de ce partage, ce serait Gédéon, c'est un homme de la Bible, une rencontre qui change tout. Et voilà, c'est ce que j'ai entendu, une rencontre qui change tout. Est-ce qu'il y a des rencontres qui changent tout? Au premier rang, j'ai deux jeunes femmes qui sont venues me voir au temps où je travaillais, puisque je suis en congé avant de prendre ma retraite, mais elles ont profité de mes dernières semaines, et puis je leur ai témoigné d'une rencontre qui a été déterminante dans ma vie, puisqu'on parlait du travail, de l'emploi, de la recherche d'emploi. Elles venaient me voir pour cela, au travail ou dans le centre de soins où je travaillais. Et je leur ai expliqué que j'avais rencontré un homme à 27 ans, parce que je cherchais du travail, et comment cet homme, cette rencontre-là a changé toute ma vie. Et je venais pour un emploi de veilleur de nuit, parce que j'avais besoin de travailler, que j'avais été envoyé par mon église ici. Et quand je suis arrivé dans son bureau, j'en avais marre de faire des entretiens. Je pense que certains ont connu ça. Vous savez, quand on dit, on répète toutes les choses. Et puis quand on vous pose la fameuse question, mais pourquoi vous voulez prendre ce poste? Puis vous êtes là, alors, bon, il faut que je trouve des arguments qui soient des arguments percutants. Puis à la fin, vous répétez les mêmes choses. Parce que votre institution, votre entreprise m'intéresse, parce que l'action qui y est menée, etc. Puis à la fin, vous dites, bon, il y a beaucoup de blabla là-dedans. Et quand j'ai commencé l'entretien, il m'a posé la question et j'ai dit, bah, écoutez, parce que je suis chrétien, parce qu'on m'a envoyé dans cette région de l'Orient pour y assurer un rôle pastoral et parce que ce serait un travail qui me permettrait de non seulement de vivre, mais aussi de travailler dans l'Église. Il m'a écouté. Puis moi, je me suis dit, bon, là, j'ai dû griller une cartouche. Et je suis reparti, et quelques semaines après, je témoignais à ces deux sœurs qui venaient me voir que cet homme-là m'a rappelé, il m'a dit, le poste est à vous. Et ensuite, pendant pratiquement 11 ans, j'étais au bénéfice de cette embauche et de son accompagnement. Et je suis rentré comme veilleur de nuit, je suis sorti comme directeur après avoir fait des études, repris des études, etc. Il y a des rencontres qui changent tout. Je souhaite que, peut-être, vous puissiez dans votre vie faire des rencontres qui changent tout. Je souhaite que vous puissiez être une rencontre qui change tout. Que vous deveniez une rencontre qui change tout pour d'autres personnes. Et s'il est une rencontre qui peut changer tout, c'est la rencontre avec Dieu. Alors là, elle change tout, je dirais, de A à Z. Ce n'est pas simplement une partie de la vie de l'autre, un événement, une dimension personnelle, amoureuse, affective, professionnelle. Non, non. La rencontre avec Dieu, c'est une rencontre qui bouscule tout. Elle fait tomber des murs qu'on n'imaginait même pas. Un des murs, quand je me suis converti à 16 ans et demi, qui est tombé, c'était le mur de la mort. Je vivais en HLM, sans perspective de vie. Et pour moi, la vie n'avait aucun sens. Il y avait juste la mort qui était au bout. Il fallait juste attendre d'y arriver, 16 ans et demi. Rencontrer Christ, tout à coup, c'était rencontrer la vie. Quelqu'un a prié cela ce matin. La vie. Et de la rencontrer pour l'éternité. Moi, il y a un mur qui est tombé. Tout à coup, je dis, tiens, il y a ça après. Déjà maintenant. C'est la rencontre qui nous est proposée. Il y a un homme qui, dans l'Ancien Testament, s'appelait Gédéon. Et puis, il a vécu quelque chose qui est de cet ordre-là, d'une rencontre qui change. Dans le livre des Juges, au chapitre 6, verset 11, on a ce passage, si je le retrouve dans ma Bible, mais je l'ai, voilà. Il y a un ange, l'ange de l'Éternel, qui s'assoit sous le térébinthe d'Ophra, c'est un lieu, qui appartenait à Joas, du clan d'Abiézer. Gédéon, le fils de Joas, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Madian, c'était les ennemis d'Israël à ce moment-là. Donc, il se cachait pour battre son froment. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ?» Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Il lui répondit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël ? Voici que ma parenté est la plus pauvre de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Un texte de rencontre qui va changer la vie de Gédéon. Il fait partie du peuple d'Israël. Il est, dans cette période, vous savez, un petit peu particulière de l'histoire d'Israël où Moïse a libéré le peuple de l'esclavage de l'Égypte. Ils ont tourné 40 ans dans le désert avant de rentrer dans la terre promise. Et là, dans cette terre promise, Dieu dit à son peuple, ben voilà, vous n'aurez pas de roi comme les autres, comme le pharaon en Égypte, comme le roi de Madian, comme les Philistins, etc. Vous allez rentrer dans cette terre et c'est moi qui vous dirigerai. Tout le plan de Dieu par rapport à Israël, même s'il est souvent bien incompris, c'était de choisir ce peuple-là à partir d'Abraham pour en faire son peuple et afin que ce peuple-là ait la mission, c'est vraiment la mission, d'annoncer qui était Dieu aux autres nations. Ce n'était pas parce qu'ils étaient meilleurs, ce n'était pas parce qu'ils étaient bons, c'était parce qu'ils avaient cette mission-là. Le plan de Dieu pour faire d'Israël un peuple de témoins... Il y a un mot d'ordre qui revient à ce moment-là, dans cette époque, où il n'y a pas de roi, mais il y a des juges. Alors les juges, vous en connaissez peut-être quelques-uns. Il y a Gédéon qui va devenir un juge, une autorité spirituelle et légale. Mais vous en avez au moins un que vous connaissez, un bitnik. Voilà, Samson, qui avait les cheveux longs. Hein, premier bitnik de l'histoire. Et qui s'est consacré à Dieu et qui va être un juge aussi en Israël. Ah! Mais pendant le temps des juges, en fait, le peuple d'Israël fait des up and down. On dirait presque aujourd'hui que c'est un peuple bipolaire. Hein ? Je suis avec Dieu et puis je retourne vers ce qui m'intéresse. Je suis avec Dieu et puis comme je suis bien maintenant avec Dieu, ben, je retourne faire ce qui me plaît. Et puis j'ai des problèmes, donc je retourne à Dieu. Toute l'histoire des juges est faite de cette manière-là et construite. Ça nous parle. Est-ce que ce n'est pas souvent comme ça que nous nous conduisons dans notre vie personnelle, hein? Le nombre de fois où on m'appelle parce qu'on a besoin. Puis une fois que les choses sont vécues avec Dieu et que la situation est réglée, bon, allez, je peux souffler. Je mets Dieu en stand-by, la Bible sur le coin de l'étagère, et puis je retourne m'occuper de mes affaires. Israël était de la même nature que nous, et nous de la même nature qu'Israël. Mais ce récit-là intervient dans cette période où les ennemis agressent et entourent Israël, et Israël n'a plus de courage, il est affaibli. Et là, on voit un homme, un jeune homme en tout cas, Gédéon, fils de Joas, qui est en train de travailler. Il est en train de battre du froment dans le pressoir. On verra après que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mais pourquoi il agit comme ça? Parce qu'il a peur. Et quand on est dans la peur, on est recroquevillé sur soi-même, enfermé. Un pressoir, on parle d'un pressoir à vin, c'est un endroit exigu où on presse, on foule le raisin. Tout ce qu'il ne faut pas comme endroit pour battre du froment, il faut être à l'air libre. Mais là, il est en train de travailler comme ça, et il est parlé de l'ange du Seigneur qui vient s'asseoir sur le térébinthe. Alors, le térébinthe, c'était un arbre sacré qu'on trouvait beaucoup dans le territoire d'Israël. Et il vient s'asseoir sous cet arbre-là, l'ange du Seigneur, et il regarde Gédéon. Il le regarde. L'ange du Seigneur, c'est une figure qu'on retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament et que, dans le monde juif, on qualifie en fait de l'envoyé de l'Éternel. Et si vous avez écouté attentivement, à un moment donné, la Bible dit, ne parle plus de l'ange du Seigneur, elle dit « l'Éternel lui dit ». C'est-à-dire qu'en fait, c'est Dieu lui-même. On a l'habitude de dire qu'on est là face à une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu qui se présente à un homme. Donc, l'ange de l'Éternel, l'ange en hébreu, c'est « malach ». C'est-à-dire l'envoyé. C'est un envoyé de Dieu, ou Dieu lui-même qui s'envoie, une théophanie. Ah, ça serait chouette, non? Ça serait chouette, finalement, qu'on ait la même expérience que Gédéon, non? Souvent, il y a une personne dans cette salle qui, un jour, je lui posais la question, et je lui dis, mais qu'est-ce qui te permettrait de croire en Christ? Bah, s'il se présentait devant moi, s'il venait, et que je le voyais, alors là, je croirais. Ah ouais? Ça serait sympa, hein? L'ange vient et s'adresse à Gédéon. Moi, je crois que Dieu croise souvent notre chemin. L'envoyé de Dieu. Moi, je crois qu'il y a un envoyé de Dieu qui souvent croise notre chemin quand on ne le connaît pas et qui, à ce moment-là, nous apporte quelque chose. Croiser le chemin de Dieu, avoir quelqu'un qui est envoyé par Dieu et qui nous donne une parole, un message, et tout à coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. Je ne sais pas si vous avez fait des rencontres comme ça extraordinaires. Des gens qui ont croisé votre route. Je vais vous montrer une image, une photo. Vous voulez bien ? Je vais vous montrer une photo, c'est la photo d'une jeune fille qui s'appelle Mae Archie, je l'ai découverte cette semaine. Et Mae Archie, en 2019, en octobre, elle est passionnée de musique, alors elle est allée faire quelque chose, elle est allée au Metropolitan Art of New York, le Met, où il y avait une très très grande exposition qui s'appelait Play It Loud, et qui, je ne sais pas si j'ai dit bien, Loud, ça ne devait pas être bon, hein. Je me tourne vers mon professeur d'anglais. Je savais que j'aurais un doute en le disant. Mais elle était dans ce très, très grand musée. Et puis, elle est allée voir une exposition consacrée au rock'n'roll. Bon, moi, je suis un amoureux du rock'n'roll. Elle est allée faire ça, elle avait 19 ans. Et puis, on va la voir. À la sortie, elle était tellement emballée qu'elle a fait une photo, elle s'est fait prendre en photo sur un passage clouté pour dire « Voilà, je suis allé voir un musée avec de la musique. » Et puis, elle a pris cette photo-là, elle est rentrée chez elle. Et puis, bien des mois après, elle a regardé cette photo-là pour se souvenir de ce beau moment de vacances, comme on le fait souvent, toutes les photos qu'on prend et qu'on ne regarde pas. Hein. Elle a regardé cette photo-là. Et tout à coup, elle a eu un choc. Elle est allée au musée du rock'n'roll. Regardez cette photo. Et elle a regardé cette photo. Elle a re-regardé cette photo. Et tout à coup, elle a pris conscience que c'était un tel moment de bonheur et de joie pour elle, tellement heureuse, qu'elle s'est dit, mais c'est un vrai moment. Oh, Paul McCartney. Sans le savoir, elle s'était prise en photo avec Paul McCartney. Moi, j'aime bien cette photo-là, parce que je me dis, il y a des passages cloutés. Alors, ça parle qu'aux vieux de ma génération. Mais la plus belle photo, le plus bel album rock de l'histoire, c'est Abbey Road, avec les Beatles qui traversent sur un passage clouté à Londres. C'est la photo la plus belle. Hein ? Paul McCartney sur un passage clouté. Et cette jeune fille a pris conscience de ça, elle l'a diffusée il y a 3-4 jours, ou une dizaine de jours, en disant, voilà, sur un célèbre réseau, nouveau réseau, et elle a dit, mais j'ai rencontré, je ne le savais pas, j'ai rencontré quelqu'un qui était au musée que j'ai visité. Ouais. On peut couper cette photo. Elle ne savait pas qu'elle avait rencontré McCartney. Il y en a combien parmi nous qui ne se sont pas rencontrés? Ils se sont rendus compte qu'ils avaient croisé Dieu dans leur vie et que Dieu était là. C'était dans la prière que j'ai entendue tout à l'heure. Tu étais là. Tu étais là dans mon histoire depuis ma naissance. Je t'ai vu. Maintenant, je prends conscience que tu étais présent dans ma vie à tellement d'occasions. Alors, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont semblables à cette jeune fille, qui vont voir Dieu dans le musée. J'ai assisté à des obsèques à nouveau cette semaine du papa de Claudie, qui vient dans notre église. Non, pas du papa, de son mari. Et on était dans une église, là aussi, très ancienne, un musée parfois, où les gens vont voir les vitraux. Michel était en extase devant les vitraux, c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Mais parfois on va à l'église comme dans un musée, comme au Métropolitain, et on ne voit pas Dieu qui marche à nos côtés au quotidien depuis tant d'années, parce qu'il veut nous rencontrer. Dieu est là devant Gédéon. Il le regarde travailler, il le regarde battre son froment, il le regarde, et j'ai entendu aussi cette prière, il le regarde dans sa peur et ses angoisses. C'est ce que tu disais tout à l'heure dans ta prière. Dieu nous connaît, il nous rencontre tel que nous sommes. Il nous voit tel que nous sommes. Gédéon, il est dans le pressoir. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il a tellement peur des ennemis qu'il se cache pour battre du froment. Je ne sais pas si vous avez lu Le Cheval d'Orgueil qui parle de la manière dont on bat le froment dans les cours des fermes, mais c'est en plein air. Lisez ce livre de merveilleux de Père Jacques Elias. Et on voit les paysans qui, à plusieurs, battent le froment. Et puis, la balle, c'est-à-dire l'enveloppe des grains, s'envole avec le vent et disperse la balle. Et ne reste au sol que le grain. Mais il faut être en plein air. Imaginez faire ce travail-là dans un pressoir entièrement fermé parce que vous êtes craintif de ceux qui pourraient venir vous voler le grain. Eh bien, c'est souvent l'attitude que nous avons dans la vie. Nous nous enfermons dans nos peurs, dans nos angoisses, dans nos souffrances. Et nous nous cachons parce que nous avons peur de l'adversaire, de celui qui pourrait abîmer nos vies. Et Dieu te dit, mais je te vois dans ta peur, mais je te vois aussi tel que tu es et tel que tu peux être. L'ange du Seigneur, Dieu lui-même, regarde Gédéon et le voit caché en train de battre son blé. Et qu'est-ce qu'il lui dit comme phrase? Il lui dit, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Et moi j'imagine, j'ai l'image de Gédéon avec son fléau, caché, recroquevillé, tapant et en surveillant les alentours. Et puis vous avez quelqu'un qui vous parle en vous disant, « Ah, l'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Tu m'as bien regardé là? T'as vu où je suis? T'as vu ce que je fais? Tu vois quelles sont les peurs, les angoisses qui sont en moi? Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Parce que l'ange du Seigneur ne voit pas Gédéon seulement à cet instant enfermé dans sa peur. Il le voit tel qu'il peut être avec Dieu. Et Dieu avec lui. Et en fait, c'est un message que Dieu nous donne aux uns et aux autres. Souvent, notre regard sur nous-mêmes nous enferme dans nos peurs, nos craintes, et Dieu nous rencontre et nous dit « Je vais faire tomber des murs et je vais te montrer qui tu es. » Pendant un temps de culte, je le dis souvent, là, c'est il y a une dizaine de jours avec Francine, on prenait un moment, et on était sur le moment, vous savez, où Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent. Vous connaissez ce texte ? Ça fait plusieurs décennies que Moïse fait paître son troupeau, il a fui l'Égypte où il avait tué un Égyptien, et puis tout à coup, il voit un buisson ardent, il s'approche, et là, il y a quelque chose d'inhabituel, le buisson brûle, mais ne se consume pas. Il dit, c'est étrange ce truc. Et là, c'est la rencontre avec Dieu, Moïse et Dieu. Je crois que c'est 40 ans qu'il a été berger, c'est ça, hein ? 40 ans. Il tournait en rond dans le désert avec ses moutons. Et tout à coup, ce buisson est Dieu qui lui parle. Et qui lui dit, je vais t'envoyer vers Pharaon. Viens, approche-toi, je vais t'envoyer vers Pharaon et tu vas libérer mon peuple. Quelle est la réponse de Moïse ? Mais qui je suis ? Qui je suis pour aller accomplir cette œuvre-là ? Et lui aussi est enfermé dans ses peurs, dans ses craintes, dans son regard, dans ses positions vis-à-vis de lui-même. La rencontre avec Dieu, c'est une rencontre où Dieu nous propose de nous découvrir en lui et avec son regard. Est-ce que je suis prêt à vivre cette rencontre-là dans ma vie ? Et à voir les murs s'effondrer et ne plus dépendre de mon regard à moi sur ma vie, mais du regard de Dieu sur ma vie. Parce que lui, il sait qui je suis. Lui, il sait quels sont les dons, les capacités qu'il a déposés en moi. Dieu a tellement le désir de nous rencontrer que c'est lui qui fait le premier pas. Alors je ne le vois pas, je ne m'en rends pas compte. Je ne sais pas qu'il est là sur ma route, sur mon chemin, sur mon passage clouté. Mais il est là. Véritablement là. Et il fait le premier pas. Le premier pas, c'est ce que nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Il a fait le premier pas. Même si je l'ignore, je peux regarder les calvaires à tous les croisements de routes en Bretagne. Et ne rien voir de ce Dieu qui a fait le premier pas. Dans ce récit de Gédéon, il nous est dit que le Seigneur vint s'asseoir sous cet arbre térébinthe et qu'il s'adressa à Gédéon. Gédéon est enfermé dans son histoire, dans l'histoire qui est autour de lui. Nous aussi, on peut être enfermé dans notre histoire, l'histoire de nos vies personnelles, ce que nous avons vécu de souffrance, de violence, de traumatisme, de ce qui a été dans notre vie. Et pourtant, Dieu nous rencontre et dit, voilà, est-ce que tu veux que j'accomplisse cette révélation en toi de ce que je peux faire, mais aussi de ce que je peux faire naître de ce que tu es ? Ah. L'ange du Seigneur lui apparut. Le terme qui est utilisé là dans la Bible, c'est un terme technique pour parler d'une apparition divine, mais qui fonctionne à deux niveaux. Il y a d'abord celui qui se révèle et il y a l'autre qui accepte de voir, accepter de voir Dieu. Dieu veut se révéler. Dieu veut apparaître à l'homme de manière à être perçu par lui. Oh non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, plus tard. Plus tard, je viens de perdre un ami cette semaine, un prêtre qui était en poste à Gavre, qui est un homme avec lequel Michel et moi, on a fait plusieurs, de nombreuses années de chemin ensemble, et qui était un homme fantastique, un prêtre. Je lui disais souvent, Marcel, tu es tellement bien, tu mériterais d'être protestant. Alors ça le faisait rire, et c'était un homme fabuleux. Et puis il a pris sa retraite, il est allé s'installer à Gavre, et puis il m'a dit, mais Jean-Marc, viens quand tu veux, on prend un café, on va au café de Gavre, puis on prend un verre ensemble et tout. Et puis j'ai toujours dit oui. Et puis même dernièrement, je pensais à lui, je disais, ah, il faut vraiment que j'aille à Gavre, etc. Et puis j'ai pas pris le temps. Et il est parti cette semaine. Ah, on peut repousser la rencontre avec Dieu. On peut la repousser même quand on est chrétien. C'est-à-dire dire, oui, oui, mais je t'en parlerai plus tard, Seigneur. Oui, je sais bien que j'ai ces choses-là à régler avec toi, mais plus tard, on a le temps. Le temps ne nous appartient pas. Faisons les rencontres qui, aujourd'hui, peuvent transformer nos vies, maintenant. Maintenant. Ah, vaillant guerrier. Alors, c'est vrai que Gédéon, il a dû être surpris de cette interpellation. Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. D'autant plus qu'il était en train de battre du blé et que vaillant guerrier, c'est un terme, je dirais presque sociologique dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est une catégorie de personnes qui appartiennent à l'armée et qui accomplissent, je dirais, ce pour quoi ils sont destinés. D'être à combattre pour le peuple et pour le pays. Ouais. Et lui, il est en train de battre du blé dans un pressoir. Déjà, il pouvait se dire, mais t'as pas l'impression que je suis un mauvais fermier déjà? Alors si tu veux faire de moi un vaillant guerrier, il y a du travail. Et certainement que dans nos vies, il y a des fois, Dieu s'adresse à nous en disant, voilà ce que je veux faire accomplir dans ta vie. Et quand on se regarde, on se dit, il va y avoir du boulot. Humainement, intellectuellement, au niveau de ma personnalité, il y a du travail, Seigneur. Comment tu veux que je passe d'un petit paysan qui est recroquevillé dans sa peur à un vaillant héros qui va sauver Israël? Et pourtant, c'est ce que Dieu veut accomplir dans chacune de nos vies. Cette œuvre de transformation. Tu peux regarder ce que tu as vécu. Tu peux regarder aussi le fait de t'être éloigné de Dieu pendant un temps. Et en même temps te dire, mais je te fais confiance. Être face à Dieu, être connu de Dieu, c'est pas rien. Hein. On pense parfois que avoir des relations haut placées, c'est quelque chose qui me valorise. Ben moi, les personnes haut placées, j'en connais pas beaucoup. Mais être connu de Dieu. Le Seigneur, au verset 14, dit, le Seigneur lui fait face, l'Éternel lui fait face. Avoir Dieu face à face, devant moi. Hein. Et Gédéon se met face à Dieu et dialogue avec lui. Et Dieu lui dit une chose toute simple. Vaillant héros, va avec la force que tu as. Il ne lui dit pas, ben, maintenant que je t'ai rencontré, tu dois être à ce niveau-là. Non, non. Il dit, avec la force que tu as, si tu prends conscience que cette force-là est suffisante, si tu la mets à ma disposition, eh bien, il y aura possibilité d'avancer ensemble, de gagner des combats dans ta vie, autour de toi. Le psaume 139 de David dit, « Seigneur, tu m'as examiné à fond et tu me connais. » C'était la force de David, avoir cette certitude-là que Dieu le connaissait à fond. On a un petit cœur, je crois, qui dit « Tu connais mon cœur, hein, tu connais mon cœur ». Mais c'est être connu à fond. Vous en connaissez beaucoup, des personnes que vous connaissez à fond, même votre conjoint, hein? Non, il y a toujours des domaines qui restent secrets. Mais Dieu a cette particularité dans sa relation à l'homme, c'est qu'il me connaît à fond. Je n'ai pas besoin d'être dans une position de fermeture. De toute façon, il me connaît totalement. Et David dit, tu m'as examiné, tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Moi, ma femme, elle ne connaît pas toujours mes pensées. On a des problèmes de communication depuis que je suis en quasi-retraite. Hein. Il y a des fois, je constate que quand je dis quelque chose, elle ne comprend pas ce que je dis. Et inversement, on a un décalage entre le verbe et l'écoute. Mais avec Dieu, il y a cette merveilleuse position, attitude de Dieu qui me connaît parfaitement. Tu connais mes pensées, tu sais quand je marche, quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Bon, parfois, ça m'arrangerait que je n'ai pas besoin de parler à ma femme et puis qu'elle sache déjà ce que je désire. Mais ça ne marche pas non plus. Il n'y a qu'avec le Seigneur que ça marche. Lui, il sait à l'avance ce que nous allons dire et faire. Cette connaissance étonnante, me dépasse, Seigneur. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Et David ira jusqu'au point où il dira, oui, tu me connais, c'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Je te célèbre car j'ai été fait de façon merveilleuse. Il y a beaucoup de patientes qui participaient au groupe d'échange spirituel au travail. C'était une heure de partage sur l'écriture. Et souvent, étant dans une situation d'addiction, elles n'exprimaient que le sentiment d'être nul, d'avoir tout gâché, d'avoir tout perdu, d'avoir eu une vie inutile, etc., etc. Et quand on partageait, je leur disais, mais qu'est-ce que vous pensez de cette attitude de David qui dit « Je te célèbre car j'ai été fait de façon merveilleuse ». Une autre traduction, c'est « Parce que je suis une créature merveilleuse ». Est-ce que vous l'acceptez, ça? Alors certains me disent « Non, non, moi je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire que je suis une créature merveilleuse ». Alors je leur disais « Arrachez la page ». Parce qu'on avait des Bibles. Je disais « Mais arrachez-la, parce qu'il ne faut pas la laisser si vous ne pouvez pas ». Alors elle dit « Non, je ne peux pas dire que je suis une Bible ». Puis il y a un tel respect devant la Bible. Hein. « Ah non, je ne déchirerai pas cette page ». Si vous ne pouvez pas le dire, elle fait partie de ce que Dieu me permet de dire. Tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Dieu a fait de toi une créature merveilleuse. Alors, je vous le dis souvent, je disais à ces patientes, après ce moment-là, vous aurez un peu de temps avant la reprise d'activité, montez dans votre chambre. Il y a un outil extraordinaire dans votre chambre qui va voir que vous êtes une créature merveilleuse. Vous rentrez dans votre chambre, moi je connais toutes les chambres, elles sont toutes pareilles. Hein. Et puis vous allez, vous longez le lit, vous allez jusqu'au lavabo, et au-dessus du lavabo, il y a un engin extraordinaire. Vous vous placez devant, et là vous allez découvrir une créature merveilleuse. Elle me disait, mais non, si je rentre dans le lit, je tourne, je regarde là. C'est une glace. Ouais. C'est une glace. Une glace qui me renvoie une image. Et à cette image, Dieu dit, tu es vraiment une créature merveilleuse. Mais il y a toute l'œuvre du péché, de l'adversaire, des chemins qu'on a parcourus qui fait que je ne me vois pas comme cela. Je ne me perçois pas comme cela. Alors, j'ai donc une réflexion quand cet ange, lui ou Dieu lui-même, lui dit, mais vaillant héros, marche avec la force que tu as. Oui, mais alors, et c'est vraiment ce que j'entends aussi autour de moi, mais est-ce que je peux croire en Dieu ? Avec tout ce que je vois, avec les guerres, les maladies, les ceci et cela. Et Gédéon, il dit la même chose, il dit, mais où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent ? Tout ce qui s'est passé, la libération, la mer qui s'ouvre en deux, on rentre dans une terre promise, on rentre dans le combat, on tourne autour d'une ville en chantant, les murs s'écroulent. Mais ça, c'est ce qu'eux, ils ont vécu. Ça, ils nous ont raconté ça. Mais moi, aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont, ces prodiges, ces miracles ? Moi, je dis qu'ils sont toujours présents et il y a la possibilité de vivre de grandes choses avec Dieu. Il y a vraiment de grandes choses à titre personnel. Et si tu essayais ? Tu as beau être chrétien depuis peut-être longtemps, mais si tu essayais de dire à Dieu, je veux te croire, encourage ma foi, suscite la foi en moi. Vous savez, ce texte-là va se terminer par Gédéon qui dit, écoute, d'accord. Supposons que tu es un ange de l'Éternel, que tu es Dieu lui-même, et que ce que tu dis de moi est vrai. D'accord, supposons-le. Mais alors, prouve-le-moi. Et puis, ça a toujours été un récit, juste après cette rencontre qui m'a laissé dubitatif, il dit à Dieu, à l'ange de l'Éternel, écoute, on va faire une chose. Je vais prendre une toison, je la mets par terre, et on laisse la nuit passer. Et demain matin, quand je me lève, il faudra que toute l'herbe qui est autour soit mouillée par la rosée et que la toison soit sèche. Demain matin, il se lève. Tout est couvert par la rosée, mouillée, et la toison est sèche. Là, il y a Gédéon qui dit, ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est... Ouais, tu es certainement Dieu, ouais. Quoique je ne suis pas tout à fait convaincu encore. Tu permets qu'on fasse encore une expérience ? Je vais mettre la toison, et demain matin, quand je me lève, il faut que la toison soit mouillée et que toute l'herbe autour soit sèche. et cela se produit. Moi, j'ai envie de dire, au début, quand je disais ça, quand j'étais jeune, je me disais, mais c'est du marchandage, ça. Est-ce que c'est de la foi encore? Mais j'ai envie de dire, et si nous mettions Dieu, pas au défi, mais à contribution, pour dire, Seigneur, dans cette situation de ma vie, tu vois, là, de moi-même, je ne peux rien faire. Et si tu agissais, si tu me rencontrais, si tu me montrais que tu es présent dans ma vie. C'est ce que Pascal appelait le pari qu'il faisait avec Dieu, le pari de Pascal. Si tu me montrais que tu agis. Il va être convaincu que même s'il ne voyait pas, il ne connaissait pas ce qu'il était, il va être convaincu que Dieu voyait en lui non seulement un vaillant héros, mais un homme qui pouvait avoir une vie différente, un regard différent sur lui, dans la mesure où il laissait Dieu entrer dans sa vie. Lorsque je parlais de Moïse tout à l'heure, ce Moïse qui dit « Mais qui je suis pour... » souvent, quand on lit ce texte-là, cet épisode-là, on s'arrête que sur le passage où Dieu dit à Moïse « Oui, tu me demandes qui je suis, ben voilà, je suis celui qui est. » Et il donne son fameux nom, le tétragramme de Dieu dans la Bible, « Vayehi Vayeha, je suis celui qui est, en hébreu. » Et on est focalisé là-dessus. Mais en fait, le début de la révélation de Dieu, c'est la question de Moïse, « Mais qui je suis ? Comme Gédéon, mais t'as regardé ce que je suis ? Qu'est-ce que tu peux faire avec un homme comme moi, une femme comme moi ?» Alors Dieu dit à Moïse, « Écoute, je vais me révéler à toi. Ce que tu es, ça deviendra vrai si tu laisses celui que je suis entrer en toi, dans ta vie. Si tu laisses ce Dieu qui est pénétrer en toi. Qui tu es ? Ben, si tu me laisses rentrer dans ta vie, je me révélerai à toi, mais je te révélerai à toi-même, je te montrerai qui tu es. Parce que je suis ton créateur, parce que je te connais au plus profond de toi. Mais qui je suis, moi, Moïse ? Vous savez, ce passage, on ne le lit pas en français, parce que c'est le français un peu plus pauvre, mais en hébreu, quand Dieu l'envoie vers Pharaon, il dit, mais attends, qui je suis ? Puis après, il dit, mais comment tu veux que je parle ? Tu me demandes d'aller parler à Pharaon alors que je suis bègue. Bon, ça, on le lit pas en français, mais en hébreu, c'est mon professeur d'hébreu m'avait appris ça, m'a fait lire ce texte en hébreu. C'est vrai que je choisis pas la facilité, Dieu. Vous trouvez pas ? Il aurait pu choisir un type fort en bouche, une autre expression en français, je crois, hein, quelqu'un qui sait, qui peut parler, qui a de la prestance, je dirais qui a du charisme. Et là, il choisit un bègue pour aller porter sa parole à Pharaon. Et Gédéon dit la même chose. Il dit, mais attends, tu as vu qui je suis ? Je suis rempli de peur, de crainte, j'ai peur de l'adversaire. J'arrive même pas à sortir pour battre mon blé. Qu'est-ce que tu veux que j'aille ? Et certainement que dans nos vies, y compris quand on est chrétien depuis longtemps, on peut être habité par des pensées qui nous enferment, qui nous limitent. Et Dieu dit, mais attends, si tu m'acceptes comme celui qui est, ce Dieu-là en toi, alors je me révélerai, mais je te révélerai aussi ce que tu es dans ma pensée de Père. Notre Père. Notre Père. Mon Père me connaît. Et alors, le texte termine par Gédéon qui accepte cette révélation, cette rencontre qui change sa vie. Il deviendra un des juges les plus présents dans la vie d'Israël. Il accomplira des miracles. Et à la fin de cette rencontre, il est prêt à servir Dieu. Et il va construire un autel. Il est dit que Dieu, étant là, il a envie de lui donner aussi ce qui lui est dû. Alors, il dit à Dieu, ne t'éloigne pas, comme s'il avait peur de dire, t'en vas pas tout de suite. Hein. Reste là, et puis j'apporte mon offrande et je la déposerai devant toi. Et Dieu lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. C'est-à-dire que Dieu s'inscrit dans le temps de Gédéon. Et Gédéon va construire un hôtel. Alors, un hôtel, ce n'est pas H-O-T-E-L, hein, c'est un hôtel A-U-T-E-L. C'est-à-dire un endroit où il peut faire brûler un sacrifice et dire, voilà, toute ma reconnaissance. C'est une manière aussi, dans l'offrande, de dire, je me donne tout entier à toi. Il n'y a pas de retenue. Je suis prêt maintenant à me donner à toi. parce que c'est de ma part un culte raisonnable. Tu t'es révélé à moi, tu m'as rencontré, tu es prêt à me révéler ce que je suis selon ton regard, alors je me donne tout. Il construit un autel. L'autel chez nous, c'est, je dirais qu'il se trouve à Golgotha. C'est la croix plantée à Golgotha et cette croix qui dit, voilà le sacrifice qui est fait pour que tu puisses te donner à moi maintenant. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts, nous aussi? Parce que, vous savez, depuis le temps de Gédéon, c'est quelque chose comme 2800 ans, à partir d'aujourd'hui. Depuis le temps de Gédéon, Dieu n'a pas changé. Il cherche toujours un homme, une femme, un jeune, des personnes âgées. Cherchez où il y en avait une. Tu me déboussoles, tu n'es pas à ta place là-bas. Des personnes âgées. Je sais que Marie-Yvonne, c'est quelqu'un qui se donne. Je ne dirais pas son âge. Mais elle se donne. Elle continue à servir Dieu. Un modèle. Dieu n'a pas changé. Il nous cherche toujours. Des hommes et des femmes qui soient remplis de compassion, qui aient envie de le servir, qui aient envie de partager le salut avec ceux qui sont perdus et en souffrance. Dieu cherche des hommes et des femmes, et pour eux aussi, son message n'a pas changé. Va avec cette force que tu as et délivre les pécheurs de la main du malin. N'est-ce pas moi qui t'envoie, dit Dieu à Gédéon. Seigneur, garde-nous de limiter ton œuvre en nous. Garde-nous de retenir ce que tu veux faire grandir, exister dans nos vies. Nous sommes tellement, tellement nombreux à amasser des trésors, à les avoir en nous, et souvent à mourir avec ces trésors. Alors que toi, comme un père, tu veux faire grandir en nous la vie que tu as déposée, les dons, les qualités, les capacités. Il y a des talents que tu nous as confiés, Seigneur, et qui restent enfouis au fond du jardin. Par ton esprit, Seigneur, donne-nous de recevoir cette parole qui s'adresse aussi à chacun. Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Va avec la force que tu as. Nous voulons, Seigneur, nous voulons entendre ta parole et aussi, au plus profond de nos cœurs, te donner la réponse que tu attends et laisser ton œuvre s'accomplir dans nos vies. Amen.